Pour résumer mon propos, que j'ai trouvé fort maladroit, je voulais montrer qu'en quelque sorte, notre vie dans l'Église, c'était alors que notre corps restait ici sur terre, notre chair, au sens où Saint Paul, pas simplement le corps, charnel, disons, hein, la chair reste ici, l'esprit, lui, est élevé, ou a la possibilité d'être élevé dans l'autre monde qu'on appelle le paradis ou qu'on appelle le ciel. Le ciel, on l'appelle comme ça parce que c'est le monde invisible. Jusqu'à l'ère des Spoutnik et autres satellites artificiels, on ne pouvait ou avions, on ne pouvait pas. Donc pour tous les hommes, symboliquement, le ciel est devenu l'image de l'inconnaissable, de l'inaccessible. Et évidemment, Dieu ne se tient pas dans le ciel comme Sampé ou d'autres humoristes peuvent le décrire, au-dessus des nuages, assis les jambes croisées sur un cumulonimbus. Mais ça veut dire l'au-delà de tout, ce qui nous est complètement transcendant. Voilà le ciel. Et notre vie chrétienne consiste à, tout en étant réellement, charnellement sur cette terre, d'être en même temps spirituellement, mais pas moins réellement, dans un autre mode d'existence qui est le mode divin, le mode céleste, si je puis dire. Et notre vie, c'est d'essayer, consiste à devenir de moins en moins d'ici-bas pour être de plus en plus d'en haut. Moins en moins d'ici-bas, de toute manière, la Providence s'en charge, puisque, croyez à mon jeune âge, petit à petit, tout s'amenuise. La santé s'en va, la jeunesse en même temps, et ne reste que physiquement parlant, quelquefois psychiquement parlant aussi d'ailleurs, mais enfin au sens de notre nature humaine, ne reste que ce que dans le monde on appelle la déchéance, qui est au contraire une apothéose, puisque c'est l'occasion de se dépouiller de tout ce qui est lourdeur dans ce monde pour accéder petit à petit à la légèreté des spirituels, à la légèreté de ceux qui acquièrent cette autre vie que le Seigneur est venu nous apporter, avec lequel, par son incarnation que nous fêtons aujourd'hui Noël, n'est-ce pas, et avec lequel attributs, je veux dire, avec lesquels il nous avait créés et que nous avons perdus. Mais notre vie consiste à apprendre à retrouver cette légèreté et absolue qui demande évidemment notre qui est un don de Dieu, scellé par l'Esprit Saint, comme vous en avez eu les sept onctions tout à l'heure, mais aussi par notre collaboration, c'est-à-dire au moins notre acceptation par la foi de ce don que nous fait Dieu, et notre collaboration à la mesure du possible. Et c'est de cette collaboration dont je vous entreprendre un tout petit peu. Donc la vie nous est donnée pour que nous soyons de plus en plus en haut, que nous soyons de plus en plus d'en haut. Et ça s'apprend d'abord, ça s'apprend. C'est pas inné, si je puis dire, à cause de notre déchéance, à cause de la maladie de notre nature, qui a perdu ses prérogatives par suite du péché. ce n'est plus inné. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Donc il faut l'apprendre. Et pour l'apprendre, nous avons essentiellement le témoignage. Le témoignage par la parole. Le Christ est le Verbe de Dieu, la parole divine. Et cette parole divine, elle nous est livrée, elle nous est offerte à nous de l'écouter, de l'entendre et d'en tirer les conclusions. C'est donc à travers la lecture intelligente. Je ne vous prends pas pour des bêtasses, hein, c'est une autre intelligence, d'une intelligence spirituelle, c'est-à-dire éclairée par l'Esprit Saint. C'est cette lecture-là des Saintes Écritures qui permet d'apprendre quel est le type de relation qui existe, qui a toujours existé et qui doit exister et qu'on doit cultiver entre Dieu et l'homme. Ce sont les Écritures sous toutes leurs formes, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui a préparé, qui a authentifié en quelque sorte, qui était l'ombre de ce qui devait advenir après. Donc en lisant l'ombre, ça certifie que le prototype qui a projeté l'ombre était vraiment juste, puisque ce n'est pas quelque chose de nouveau. La parole, c'est les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, le Christ est venu nous révéler le sens ou l'accomplissement de ce qu'on appelle depuis lui l'Ancien Testament. Et dans cette révélation, nous en avons le témoignage par ceux qui ont été témoins directs, les apôtres et notamment les évangélistes. Et parmi les évangélistes, il y a une progression, si je puis dire, un approfondissement. Les premiers évangélistes ont narré en quelque sorte la vie et les paroles et les actes de celui qui se disait, et qui est bien sûr, fils de Dieu, donc Dieu lui-même. Et puis, au fur et à mesure, mais déjà en choisissant certains moments, certaines paroles, parmi d'autres, il y avait déjà une forme d'analyse, en quelque sorte, une certaine interprétation de la vie de Jésus, que les apôtres n'ont pas inventé d'eux-mêmes. Rappelez-vous qu'à plusieurs reprises, il a pris les apôtres à part et leur a enseigné comment il fallait comprendre les Saintes Écritures, comment il fallait voir comment ces Écritures parlaient de lui et pourquoi. Après, vous avez eu Saint Jean qui a montré la théologie, l'aspect mystique, si je puis dire, de cet accomplissement qu'a amené le Christ en s'incarnant. Et puis Saint Paul, qui à la suite d'une multitude de visions, d'apparitions, de révélations par l'Esprit Saint, de la signification aussi de ce qu'avait vécu, dit et accompli le Christ, a mis à notre disposition tout ce patrimoine. Et depuis, l'Esprit Saint n'a pas cessé d'agir dans l'Église et a continué à révéler aux hommes, notamment avec les pères de l'Église, mais qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que les propos que je vous tiens aujourd'hui sont dans la continuité de cette réalité-là. L'Esprit Saint a continué à expliquer, à approfondir, à montrer aux hommes quelle est notre vocation sur terre, quel est comment s'accomplit notre relation avec Dieu. Et je vais revenir pour vous tout particulièrement sur ce point-là dans quelques instants. Donc, cette relation avec Dieu s'apprend d'abord par la parole, donc par la lecture de la parole, par l'audition de la parole, autrement dit la lecture des Saintes Écritures, qui sont plurimillénaires. Mais entendre la parole ne suffit pas. Il faut encore la recevoir. Et recevoir la parole, c'est le mode par excellence de réception de la parole vivante, c'est par le don des sacrements. Les sacrements, ce sont des moyens divino-humains, s'il y a des moyens humains, matériels, ou audibles, ou visibles, mais qui sont remplis des énergies divines, remplies de la vie divine, qui, à travers eux, à travers ces choses humaines ou matérielles, peuvent se révéler à nous. C'est comme ça, par exemple, que à travers du pain et du vin eucharistique, la présence de l'Esprit Saint, sans changer pour autant le pain et le vin en autre chose, porte en même temps le feu de la divinité. Comme de l'eau qui bout, c'est qu'un exemple, et ne prenez faites pas la comparaison immédiate, mais enfin, absolue. Comme de l'eau qui bout, l'eau a ses propriétés, et elle est remplie en même temps de la chaleur qui lui permet de bouillir. L'eau et le feu sont unis en quelque sorte. Les sacrements, ce sont ces moyens humains comme l'eau et divins comme la chaleur, pour prendre cette image, qui sont unis et qui se communiquent à nous. Mettez la main dans une casserole d'eau bouillante, vous allez voir ce que ça donne. Dieu est plus clément, il ne nous ébouillante pas, mais il nous réchauffe et il nous éclaire. Donc écoutez la parole, la recevoir par les sacrements, mais il faut encore l'intérioriser. Ce n'est pas un don extérieur. Il faut encore faire cette parole, cette vie-là, il faut la faire nous. Il faut devenir ce que la parole nous enseigne. Et ceci s'accomplit par la prière. Pas par les prières, c'est pas en récitant des formules, des prières plus ou moins longues, plus ou moins enthousiastes, que nous intériorisons la vie divine. Ces prières, je mettrai avec un P minuscule, ces prières-là sont utiles parce que ça lance la machine, parce qu'on est un petit peu lourd sur les bords, et on a besoin de ces formules pour orienter la qualité de notre prière sur le repentir, sur l'action de grâce, sur l'espérance, sur le... Ces prières-là qui forge en quelque sorte la psychologie de notre âme. Je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, mais enfin, vous comprenez, c'est ça qui donne la forme à notre vie spirituelle. Mais ces prières sont donc indispensables, mais ce qui est encore plus indispensable, c'est la prière. La prière qui est cette relation vécu à travers, dans la foi, avec ce Dieu vivant qui se manifeste à nous et dont on sent sans le sentir, on sent sans que ce soit notre intelligence ni nos sens qui le perçoivent, mais quelque chose en nous qui se situe au niveau de la foi, qui nous fait deviner, qui nous fait tressaillir, qui amène en nous une paix, une joie profonde, au-delà de toutes les difficultés, au-delà de toutes les peines, au-delà de tous les drames, au-delà de toutes les fautes, au-delà de tous les péchés, mais une certitude, une vague, une lame de fond qui n'est que l'expression de cette chaleur, de cette vie, de cet enthousiasme de l'unique vie qui est la vie de Dieu. Donc voilà pour la prière. La prière qui personnifie, si je puis dire, qui intériorise, la prière qui est toujours aride, qui est toujours difficile, parce que la prière, c'est un abandon de nos activités, même cérébrales, nos activités intellectuelles, pour se mettre dans le silence total en présence de l'invisible et de l'incompréhensible. Et pourtant, la prière est une vie authentique, une relation authentique avec Dieu. Et c'est cela qu'il faut chercher, non pas comme un but. La prière n'est pas un but, la prière est un moyen et une conséquence. La prière, toujours avec le P majuscule, la prière, c'est la conséquence même de notre communion avec Dieu qui nous réchauffe, et l'action de grâce, la joie qui est cette lame de fond dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'intérieur de nous et que l'on répercute, que l'on renvoie à Dieu. C'est quelque chose de la vie même de Dieu qui nous est donnée, et que comme des miroirs fidèles, autant que faire se peut, on lui réfléchit. Cette vie spirituelle, cette vie qu'on peut appeler en rigueur de terme vie mystique dans le bon sens du terme, s'édifie, se solidifie ou se consolide par un grand mystère. J'appelle volontairement un mystère parce que, comme les sacrements dont je parlais tout à l'heure, qui sont des moyens divino-humains, le moyen dont je vais vous parler maintenant est encore un moyen humano-divin. C'est-à-dire, je voudrais parler du jeûne. Le jeûne est un moyen de solidifier, de consolider la vie avec Dieu en la faisant rejaillir même sur notre corps, en jeûnant, manger de temps en temps quand même, entre deux, hein, ne faites pas que de jeûner, mais le jeûne, et nous avons dans l'église orthodoxe des canons, des règles de jeûne qui nous canalisent justement pour éviter de faire n'importe quoi et de détruire notre santé, ou de tomber dans l'orgueil, ou de tomber dans l'illusion. Le jeûne fait passer dans notre corps même ce que nous vivons dans notre âme. Et si nous devons ressentir dans notre âme une certaine réalité, cette réalité de l'invisible, de l'inconnaissable, il faut que ça passe par notre corps aussi. Et le jeûne permet cela. Le jeûne n'est pas seulement n'est pas un sacrifice. C'est pas quelque chose que l'on offre à Dieu. Seigneur, puisque tu aimes que je souffre, eh bien je vais souffrir pour toi. D'abord, Dieu n'aime pas qu'on souffre. D'abord. Et puis, qu'est-ce que vous voulez offrir à Dieu ? On ne peut rien offrir à Dieu en soi. Tout ce qu'on peut lui offrir, ça lui appartient. C'est lui qui nous le donne. Ce qu'on dit à la liturgie tout à l'heure, on a dit « Ce qui est à toi, de ce qui est à toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Mais le jeûne nous fait ressentir dans notre chair, disons même, si vous voulez, dans notre estomac, mais pas simplement dans notre estomac, aussi dans notre psychisme. Parce que vous pourrez remarquer que bien souvent le jeûne on s'en passe facilement, on l'accomplit facilement quand il s'agit de perdre quelques kilos, un peu de la graisse du ventre ou d'autres choses, qu'à partir du moment où c'est d'ordre spirituel, des motifs spirituels, à ce moment-là, on est beaucoup moins empressé. On se trouve à avoir beaucoup plus l'estomac qui nous tiraille de plus en plus, et inévitablement, notre entourage, s'il n'est pas dans la même optique, s'empresse de nous condamner. Autant pour perdre des kilos, tout le monde accepte que je ne mange pas pendant 8 jours, autant si je fais ça pour me préparer pour une fête liturgique, on va trouver que je suis fanatique. D'où la tentation. Amen. Ce qui montre bien que la relation qu'il y a entre le jeûne et les choses, appelons-les comme ça, les choses spirituelles. La preuve, c'est que c'est condamné. C'est donc qu'il y a une raison. Le malin est derrière. Dans notre jeûne, l'envie de manger, l'envie de rompre le jeûne manifeste les passions les plus profondes qui sont en nous. Toutes les pulsions égoïstes, égocentriques qui se manifestent quand on jeûne, on les sent de notre manière encore. C'est pas la seule. Mais par le jeûne, les ressentant, au moins symboliquement, si vous voulez, on ne peut pas les énumérer, mais les ressentant, si on s'y oppose par le jeûne, si on persévère dans le jeûne, à ce moment-là, on lutte contre les autres passions. Je ne vais pas vous les décrire, les passions. Mettons la colère, par exemple, à titre d'exemple. Hein. Vous en attendiez d'autres, hein. Ben non, je prends la colère. On ne voit pas le rapport qu'il y a entre la colère et le jeûne. Enfin, ou entre le jeûne et la colère. Mais jeûnons, et vous allez voir que la tentation de la colère va apparaître, c'est donc que ça existait bien en moi. Et en luttant pour ne pas sombrer dans la gourmandise, ne pas rompre le jeûne inutilement, je m'entraîne en même temps. C'est un exercice, d'où le terme ascèse. C'est un exercice qui nous permet de lutter aussi indirectement contre la passion de la colère. Je ne sais pas si vous avez vu quelquefois un taulier, celui qui travaille la tôle, travailler. Quand vous avez une tôle qui est froissée comme ça, si c'est moi qui ne suis pas dans le métier qui veut redresser la tôle, je vais mettre une enclume en dessous, un coup de marteau au-dessus, et je vais essayer d'enfoncer, moyennant quoi je vais avoir une bosse qui va apparaître 30 cm plus loin. Alors qu'un vrai taulier qui connaît son métier, entendez, un jeûneur si vous voulez, et lui, il va taper là, et il sait que l'onde de choc va redresser le pli qui est. Ce que je vous dis n'est pas une invention, c'est comme ça réellement. Eh bien, dans la réalité, dans le mystère du jeûne, il y a quelque chose d'identique. En luttant, en tapant avec le jeûne, on réagit sur d'autres choses, quelquefois même qui nous sont invisibles ou inconnues. Tout ça réalisé, en partie, cette orientation-là prise, cette vie avec Dieu s'exprime, parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'écouter, de la recevoir, de l'intérioriser ou de la consolider, mais elle doit s'exprimer. Et cette vie-là s'exprime par quelque chose de tout simple, qu'on appelle, avec un vocabulaire hélas, pas forcé, mais détourné à notre époque, dans notre monde moderne, c'est ce qu'on appelle la charité. La charité, c'est-à-dire l'amour, donc le non-jugement, donc l'acceptation de l'autre, donc la patience, tout ce qui est vis-à-vis des autres, et vis-à-vis du monde, vis-à-vis des événements, vis-à-vis de mes propres fautes, la patience envers moi-même, et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas décrire, tout cela, cette charité, cet amour, et le résultat de la vie que Dieu, de la vie elle-même de Dieu, qu'il nous communique et qui nous fait l'imiter, du verbe imiter. Et cette charité, exprimant toute la relation dont je vous donnais les moyens d'acquérir tout à l'heure, se manifeste aussi parallèlement, parce que ça fait qu'un, c'est la même réalité, par le repentir. Le repentir, c'est-à-dire cette disposition volontaire à ne pas vivre que des choses de ce monde, mais à vivre selon l'autre regard, celui sur lequel j'essaie de poser le vôtre aujourd'hui. Le repentir, l'humilité, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont, de reconnaître Dieu pour ce qu'il est, les autres pour ce qu'ils sont, moi-même pour ce que je suis. C'est-à-dire taire les péchés, les fautes ou les manquements des autres, ne voir que chez les autres, que voir que l'action de Dieu en eux est volontairement effacée ou taire les limites qui peuvent être les leurs. Et si je puis dire en toute humilité, la même chose pour chacun de nous, pour moi-même, si vous voulez. Ne pas nous appesantir uniquement ou exclusivement ou trop lourdement sur notre indignité, mais laissant notre indignité derrière nous, comme si elle l'est, tout en sachant qu'elle existe, mais sans nous y arrêter, sans que ce soit un écran entre Dieu et nous, de nous présenter devant la face de Dieu, être face à face et le laisser agir. Car c'est Dieu qui est véritablement le maître de notre vie spirituelle, et c'est en étant face à face que petit à petit son empreinte peut se fixer sur notre chair et nous rendre conformes à lui. D'où dans la pratique aussi la nécessité, un autre sacrement, un autre moyen divin et humain indispensable, c'est la confession sacramentelle. La confession sacramentelle est cet acte d'humilité qui nous fait nous reconnaître pécheurs et confesser la grandeur de Dieu en vivant l'incarnation de Christ. Dieu s'est fait homme aussi pour être un passage, pour être un lien humain entre la divinité et l'humanité. Et dans la confession, le prêtre est ce lien humain. Se confesser à un homme, à un prêtre, n'est pas facile. Ce serait avec une femme, ce serait pas plus facile, n'ayez pas peur. Hein. Mais la confession à un autre homme demande une abnégation de soi-même, demande une humilité qui est justement le médicament, si je puis dire, le médicament à nos fautes. Parce que la confession existe, nous pouvons être sûrs, le prêtre en est là pour en témoigner, que Dieu pardonne véritablement nos fautes et efface les conséquences de nos fautes. Je rappelle à ce sujet-là que les canons de l'Église, parce qu'il y a aussi des canons de l'Église, les réalités de nos parlons aujourd'hui s'incarnent à travers les canons de l'Église, à travers les règles de l'Église, implique qu'on doit se confesser au moins une fois par an. Sinon, la communion n'est pas possible. C'est communier à ce moment-là. Ce serait communier pour son indignité, comme il est dit dans certaines prières.